5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
C'est la 46e édition Orion Chemin de l'Espace. Avec vous, Jean-Michel, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Ce mois-ci, pas mal de lancements, un peu avec des objets lancés un peu particuliers hein, et intéressants. Et puis aussi une grande nouvelle, on aurait photographié un trou noir. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc Jean-Michel, pendant ce mois d'avril, tout a commencé finalement le 11 avril avec un incident sur un satellite israélien.
Alors oui, donc on avait parlé le mois dernier d'un concours, le Google XPRIZE, donc qui avait lancé un concours pour lancer un satellite sur la Lune. Donc c'est Israël qui avait gagné ce prix-là donc, et lancé une petite sonde en direction de la Lune.
Et elle est arrivée...
Elle est arrivée bien comme il faut, donc c'est mis en orbite lunaire. Alors lancée en février et pour une arrivée en avril. Donc vous voyez, il ne faut pas si longtemps pour aller sur la Lune, mais elle s'est mise en orbite aussi pour faire des observations, pour bien
donc
préparer
tout ça. Donc elle a déjà travaillé et fourni beaucoup d'informations, peut-être.
Voilà, quelques informations, photos, comme, bon, on va dire la panoplie classique de tout ce qu'on lance dans le ciel et l'espace. Hein, voilà, ce sont des photos, ce sont des données donc, de l'observation du ciel profond.
Donc tout allait bien.
Tout allait bien.
Qu'est-ce qui se passe le 11 avril?
Et le 11 avril, donc, on décide de faire atterrir ce petit module sur la Lune. Et malheureusement, donc, en descendant sur la surface lunaire, après avoir fait de très très belles photos hein, que nous avons pu voir en ligne sur les sites spécialisés dans le ciel et l'espace, donc Bereshit, hein, puisque c'est son nom, alors en israélien ça veut dire la genèse, hein, et donc cette petite sonde est tombée en panne de moteur, et donc s'est crachée sur la Lune, a créé certainement un nouveau cratère lunaire.
Voilà, un nouveau petit cratère sur la Lune. On a des nouvelles, on a pu l'observer
Non, parce que bon, ça a été observé par les sondes, dont celles qui tournent pour les autres nations spatiales en orbite autour lunaire, et il y a des photos qui ont été faites, hein, mais bon, voilà, un petit crash lunaire, on allait dire, c'est un petit incident du quotidien.
En tous les cas, voilà, c'est un premier événement, parce qu'elle a quand même produit pas mal d'informations.
C'est un échec, mais un semi-échec.
Voilà,
bon,
semi-échec.
Israël pouvait devenir la 7e nation à avoir un objet sur la Lune. Bon, c'est raté, mais...
Mais bon, progrès, voilà. Et on apprend sans doute du côté d'Israël. En tout cas, voilà un événement pour cette année du cinquantenaire, dont on aura l'occasion de reparler très certainement. Toujours le 11 avril, une fusée Falcon Heavy.
Donc, alors, la société SpaceX, dont on parle régulièrement, cette société privée américaine donc, qui fait du lancement commercial maintenant, donc, et qui a construit cette très grosse fusée. Alors, Falcon Heavy, ça ne vous dit peut-être rien, on va rappeler ça pour nos auditeurs, c'est cette très grosse fusée, vous savez, qui avait lancé la voiture d'Elon Musk. Hein,
qui tourne toujours d'ailleurs.
Qui est partie en orbite solaire. Oui. Voilà, hein, donc, qui avait été médiatisée. Et donc, cette très grosse fusée capable de lancer de très très lourdes charge hein, en orbite, donc a fait son premier lancement commercial avec un satellite, donc Arabsat. Alors, pas un gros satellite, puisque c'est simplement que 6 tonnes 400, hein, c'est pas très lourd, mais c'est simplement un test de vol commercial. Hein, 27 moteurs, plus de 50 mètres de hauteur, ouais, un très très gros objet. Alors, pourquoi on en parle? Eh bien, parce que c'est une fusée qui va concurrencer directement les autres lanceurs commerciaux au monde. Alors, on pense notamment au niveau de l'espace spatial européen, à notre fusée Ariane 5.
Ariane, bien sûr. Hein,
donc, Ariane 5 qui lance quand même des charges.
Ariane 6 qui est en préparation. En prévision, oui. Hein,
donc, Ariane 5 qui lance de très lourdes charges. Mais la particularité de la Falcon Heavy, c'est qu'elle a aussi des boosters récupérables, des étages récupérables. Et bien sûr, elle va lancer plus lourd et moins cher.
Donc, nouvelle génération, nouvelle aventure, puisque 50 ans la Lune, bien entendu, mais aujourd'hui, on se prépare sans doute à aller, peut-être à retourner sur la Lune, mais peut-être aller plus loin.
Plus loin.
En tous les cas, la conquête spatiale est à l'aube d'une nouvelle étape importante, et on voit effectivement les premiers outils.
Alors, voilà, avec l'évolution de ces lanceurs, et vraiment, bon, ce gros lanceur, hein, 27 moteurs, voilà. Bon, une poussée énorme, hein, donc lancer des charges très très lourdes, la Lune bien sûr, hein, l'espace, bien sûr, des satellites en orbite, en géostationnaire, etc. Et puis peut-être un jour Mars.
Et la maîtrise des coûts, effectivement. Donc on rappelle quand même que ce lancement-là, un si gros lanceur, effectivement, s'inscrit dans la préparation, effectivement, des vols habités et des vols commerciaux. Il y a toujours la Chine, puisque le 20 avril, un satellite chinois est parti.
Alors, nouveau lancement d'un satellite Beidou. Alors, Beidou, alors en chinois, ça veut dire la grande ours. Hein. C'est la constellation de satellites GPS pour la Chine. Donc, le lanceur, ben, c'est une fusée longue marche. Hein. Ça fait partir des lanceurs lourds de la Chine. Hein. Donc, le Beidou, donc 4A, donc c'est son nom, hein, c'est un satellite de navigation chinois, donc équivalent au GPS européen, on l'a dit. Il utilise une charge de 450 kg, donc composée d'une antenne pour des signaux de navigation, des réflecteurs, des communications radio, voilà. Donc, et la masse au décollage, c'est 4600 kg. Vous voyez, du petit, du gros, il s'en lance.
Voilà. Voilà. GPS chinois, Galileo européen, etc. Voilà. Ils en sont où les Chinois sur, parce qu'il faut une certaine densité de...
Ah, mais ils ont leur constellation.
La
couverture satellite est pratiquement mondiale, hein, pour ces satellites-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout de quelques années...
Non, mais est-ce que les Chinois sont autonomes sur leur GPS?
Ah, tout à fait.
Les Européens.
Alors, les Européens, donc le Galileo, normalement, nous, non. On est autonomes, mais bon, on est en phase de mise en place. Hein.
Donc, on a des GPS, entre guillemets, américains. Oui. On a des GPS européens et on a un GPS chinois.
Chinois. Et j'allais rajouter le Mitsubishi, qui est japonais. Alors, c'est plutôt un système de géolocalisation propre au Japon. Voilà, au Japon.
D'accord. Donc, c'est un nouveau satellite, en quelque sorte, qui vient...
Compléter la
pléiade de satellites chinois, voilà. Sur le sujet. Alors, on apprend toujours de ces échecs. On a vu tout à l'heure avec Israël, mais là, les États-Unis ne sont pas exempts d'échecs, puisqu'il y a une capsule Dragon.
Alors, une capsule
qui a posé problème ce mois-ci.
Qui avait déjà volé dans l'espace, donc qui a été récupérée. C'est les tests de la capsule Crew Dragon, hein, donc qui envisage soit de ravitailler la station spatiale, soit d'emmener des hommes dans l'espace, puisque cette capsule Crew Dragon, souvenez-vous, le mois dernier, elle avait envoyé un mannequin, un replay, donc des tests. Elle est réutilisée. Elle est remise au sommet d'une fusée pour des tests au sol. Et malheureusement, donc, un petit propulseur de cette fusée en test au sol qui a explosé, donc, qui a gravement endommagé cette capsule, qui théoriquement devait être réutilisée, mais qui ne le sera certainement pas, puisqu'elle a été, comme je vous le dis, gravement brûlée. Donc, c'est un échec. Mais on va dire que ce sont des échecs qui font partie des tests, puisque avant d'envoyer des hommes, on envoie des mannequins. terrain, on envoie du matériel, et donc ça va certainement retarder le programme de la société SpaceX, donc pour cette capsule. Alors, est-ce que ça peut faire le bonheur? Puisqu'il y a deux concurrents aussi.
Rappelons quand même ce qui est en jeu par rapport à cette capsule Dragon.
Voilà, puisqu'aux États-Unis, il y a soit la capsule Dragon de SpaceX, soit le Starliner, le CTS-100 de Boeing, hein, qui prévoit d'envoyer des hommes dans l'espace. Alors eux, ils ont des vols qui sont prévus en juillet, vols d'essai. Alors, est-ce que le bonheur des uns peut faire le malheur des autres? Mais de toute façon, les deux capsules, les deux ravitailleurs seront concurrentiels au niveau de la NASA pour envoyer des hommes dans l'espace. Et à terme, les deux fonctionneront certainement.
Voilà, on rappelle qu'aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne permettent de proposer des vols habités, et que la seule capsule qu'il le fasse, c'est le Soyouz
russe. Alors, justement,
donc ça fait trois concurrents en quelque sorte, oui. Même si on n'est pas dans une concurrence avec Soyouz.
On va dire dans ce cadre-là, c'est le retour en vol habité pour les USA. Hein. Ah. Alors pour les USA, on résume rapidement, donc cette capsule Dragon avec la société SpaceX, le CTS-100 de chez Boeing, donc qui aussi enverra des hommes vers la station spatiale, et bien sûr les Américains. Donc au niveau de la NASA, au niveau de l'agence nationale américaine, ils ont le Space Launch System, le SLS, avec une capsule Orion qui envisage aussi d'envoyer des hommes sur la Lune, voire sur Mars. Vous voyez qu'il y a ces trois du côté américain, le Soyouz du côté russe. Bien sûr, les Chinois sont autonomes en vol habité. Voilà un petit peu la panoplie, le résumé rapide du vol habité à ce jour.
Voilà, donc test raté, mais certainement instructif pour la capsule Dragon. C'était le 20 avril. Et puis, Jean-Michel, le 17 avril, un lancement un peu particulier avec une innovation, c'est le lancement du cargo Cygnus, avec à bord un certain nombre de satellites tout à fait nouvelle génération et à la durée de vie un peu surprenante.
Alors, on rappelle, côté américain, on ravitaille la station spatiale avec ce cargo Cygnus de Grumman, donc société américaine. On ravitaille la station aussi avec la capsule Dragon, donc pas celle qui a eu un échec, puisque celle qui a eu un échec, c'est la Crew Dragon.
Or
que la Dragon classique qui se met sur
un véhicule, on a souvent comparé à un petit camion de ravitaillement.
Voilà. Donc celle-ci marche bien. Donc vous voyez, côté américain, deux systèmes de ravitaillement et bien sûr l'avantage du Cygnus, donc bien qui a fait beaucoup de choses cette semaine, lancement sans faute.
Quel lanceur?
Alors fusée Antares.
Fusée Antares,
donc de la base de Wallops en Virginie. Donc, on lance donc le ravitaillement pour la station spatiale avec 3500 tonnes de choses, donc de l'eau, de la nourriture.
3500 kilos.
Oui, mais 1000 repas. 1000 repas prévus pour les astronautes. Donc ensuite, on va lancer des petits CubeSats, vous savez, ces petits satellites qui font 10, 20, 30 cm de côté et qui vont être lancés
par grappe déposés à certains endroits.
Voilà. Et avec une nouveauté, c'est que dans le deuxième étage de la fusée, donc lancement en orbite basse, des FinSat, donc 40 petits FinSat qui vont être lancés. Alors c'est des tout petits satellites qui font 11 par 11, 5 par 25 cm, relativement plats.
Mais ils se caractérisent par autre chose, c'est leur durée de vie, je crois.
Alors leur durée de vie, donc la durée de vie, 5 jours.
Cinq jours.
Pourquoi
donc, autant d'efforts pour 5 jours dans l'espace?
Autant d'efforts parce que ce sont des élèves, il y a plus de 400 élèves qui ont participé à ça, donc des universités, des lycées américains qui vont construire des expériences. Donc dans les salles de cours, on construit ces expériences. Alors grâce à des partenaires et privés pour le lancement, on va pouvoir mettre donc ces satellites dans le deuxième étage et donc au sol pendant 5 jours. Eh ben, on va recueillir des données. Donc les élèves au sol vont travailler sur des programmes d'observation de la Terre, de la photo, etc. Donc toujours la panoplie scientifique classique de l'observation de l'espace et de la Terre à travers du gros satellite ou du petit satellite. C'est pour lancer un petit peu, faire participer le plus grand nombre de personnes et notamment former les futurs...
Est-ce qu'on peut parler de satellites scolaires ou universitaires?
On pourrait le dire,
est-ce que ce sont de nouvelles aides pédagogiques? Pas d'aides pédagogiques, mais en tout cas des...
Ah ben, ce sont des outils pédagogiques Mais souvenez-vous, dans une précédente émission, on disait que peut-être un jour, tout le monde pourrait lancer son satellite, que ce soit des entreprises. Ben, vous voyez, on s'en approche.
Jean-Michel, on lance des sondes qui vont très loin. On lance des satellites qui tournent plus ou moins loin de la Terre. Parmi ces satellites, récemment, on a observé qu'ils étaient de plus en plus petits et de plus en plus nombreux. On a parlé de CubeSat, que l'on déposait par grappe à certains endroits. Et là, arrive une nouvelle catégorie de satellites. Comment vous les appelez?
Les FinSat.
Les FinSat.
Oui, THN, voilà. Donc, en anglais, c'est du tout petit. Et donc, comme on le rappelle souvent, regardez tout ce que l'on peut avoir aujourd'hui dans un téléphone portable. Eh bien, le FinSat, c'est une
miniaturisation.
La miniaturisation de...
Du jour. C'est l'époque.
Oui, de tous les objets, puisqu'on va pouvoir mettre des microprocesseurs. Alors, à quoi ça sert tout ça? On l'a dit, à travailler au sol, de recueillir des données. Et puis, bien sûr, la durée de vie étant très courte, ils vont se consumer dans l'atmosphère. Si vous êtes au sol, en ce moment, en train d'observer le ciel de nuit, et que vous voyez un gros point lumineux, vous pouvez dire c'est effectivement une étoile filante, mais ça peut être tout simplement un de ces microsatellites qui est en train de se consumer. Alors, ce qui pose question, bien sûr, c'est que il n'y a aucune retombée sur Terre. On n'a aucun souci, on n'en retrouvera pas un petit bout dans la nature en Haute-Loire. Mais bien sûr, dans la très haute atmosphère, il y a un dégazage.
On parlait d'altitude basse, d'orbite basse. Ils sont à quelle altitude?
Ah, c'est en dessous de 400 km.
En dessous, bien sûr.
Oui, ça a été lancé vraiment en orbite très très basse. Mais c'est le deuxième étage de la fusée. Donc après, elle continue, elle amène la capsule qui va s'amarrer à l'ISS. Donc ce qui a été fait en 37 heures pour le lancement de cette fusée en Tarès, mais les petits satellites ont été lancés très très rapidement après le lancement.
Eh bien, on retiendra ce 17 avril comme étant la date du premier lancement de ces FinSat, ces satellites.
Alors, premier lancement connu, parce qu'il y en a eu certainement d'autres, parce que là, ça a été très médiatisé, donc voilà, c'est les informations qui nous sont fournies par les agences spatiales, que ce soit donc la NASA, le CNES, ou donc SpaceX, ou la firme Grumman.
Des satellites pour les étudiants, des satellites universitaires. Alors, ce sont, avec Saturne, les vedettes de nos soirées astronomiques du BETS, les trous noirs. Tous les enfants nous parlent des trous noirs. Donc, on sait que, par définition, les trous noirs sont invisibles. Ce sont des objets si massifs que, par-delà un point baptisé horizon des événements, plus rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper de leur emprise.
Tout à fait.
Notre meilleur outil pour les étudier, jusqu'à présent, a donc été leur environnement, la façon dont cet environnement ou ces trous noirs agissaient ou faisaient subir leur influence sur les autres objets. Comment photographier dans ces conditions un trou noir, Jean-Michel?
Alors, un trou noir, puisqu'on voit rien, on voit que du noir, c'est-à-dire il est difficile de photographier quelque chose de noir. Alors, on va réunir tous les plus gros télescopes mondiaux. Alors, je pense notamment pour l'espace spatial européen, donc au Chili, tous les télescopes qui sont donc au Mont Paranal. On va les relier avec tous les gros télescopes mondiaux autour de la Terre. Et on va essayer de relier tout ça. C'est comme si on reliait des milliers d'ordinateurs entre eux. On va les faire travailler. Et là, bon, puisqu'on raisonne en termes informatiques, on va parler de pétaoctets. Donc, c'est des millions, des millions, des millions, des millions, des millions. Alors, j'avais le chiffre, ça commence par 12, 9, et puis des zéros, des zéros. C'est impossible à dire.
D'accord. Bon, donc,
voilà. Donc, on va dire en pétaoctets, comme ça.
Enfin, des compétences technologiques nouvelles. Voilà.
On va choisir.
Qu'est-ce que l'on va choisir
la cible.
Voilà. Et comment on observe, puisqu'il n'y a rien à voir?
Non, mais le fait, vous savez bien que lorsqu'on observe l'espace à l'aide d'un télescope, on voit une image, on va dire, en gris, noir et blanc.
Oui, mais là, on ne voit rien.
Non, on ne voit rien. Mais le fait, lorsqu'on observe et qu'on fait une photo du ciel, déjà, on obtient des couleurs. Vous voyez, quand on fait de la photoastronomie, on ne voit rien. Mais quand on a, vous observez une galaxie.
Oui, mais pour voir des couleurs, il faut qu'il y ait des couleurs. Mais oui, si le trou noir est noir et qu'il n'y a rien à voir.
Non, mais il y a quand même, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a ce trou noir, la lumière ne peut pas s'en échapper, mais il y a le bord du trou noir. Il y a la relativité générale qui agit sur, là-dessus. Donc, ce qui fait que, eh bien, il y a quand même quelque chose de résiduel qui, grâce au temps qu'on va mettre pour capter cette image. Et puis ensuite, bien sûr, une fois qu'on a cette image, comme lorsqu'on fait une photo du ciel profond, on va essayer de la résoudre avec des logiciels qui fait qu'on va obtenir quelque chose qui donne noir avec un espèce de rouge autour, qui est un peu le bord du trou noir, qu'on appelle, dans le cadre d'un trou noir, ça s'appelle l'horizon des événements, c'est le bord du trou noir, et là on obtient une image de...
Donc je pense qu'on observe dans des longueurs d'onde très particulières.
Voilà, et puis il vous dit c'est tout retravaillé.
En tout cas, c'est une image, je ne sais pas si on peut parler de photo, mais en tout cas une image en tout cas, qui a été réalisée depuis la Terre, grâce à finalement la mise en commun
de tous ces observatoires.
Des grands, voilà, il y a donc une collaboration internationale de ce point de vue-là, et qui a permis effectivement de révéler le tour du trou noir, en fait, en quelque sorte. Voilà. Donc, on aura certainement l'occasion d'en reparler. En tout cas, si ça se confirme et si on maîtrise de mieux en mieux ce type de technologie, c'est une grande nouvelle pour la science, parce que c'est vraiment un sujet. On a parlé plusieurs fois de Stephen Hawking, qui avait beaucoup travaillé sur le sujet, et je pense qu'il aurait des choses à dire effectivement aujourd'hui sur ce qui arrive. Et pour terminer cette émission, quelques conseils de lecture ou de visite, Jean-Michel?
Alors, la lecture, puisqu'on vient de parler du trou noir, vous avez parlé de Stephen Hawking, donc moi je vais vous parler de Jean-Pierre Luminet. Jean-Pierre Luminet, c'est un astronome français qui a beaucoup travaillé sur les astéroïdes et justement sur les trous noirs. Il a de très beaux livres sur les trous noirs. Et aujourd'hui, je vous propose L'univers en 40 questions, donc de Jean-Pierre Luminet, aux éditions Librio Flammarion. Donc c'est un ouvrage qui coûte très peu cher et bien sûr bourré de renseignements et d'informations sur la science de l'espace.
Voilà, des réponses à vos questions, donc.
Voilà.
Jean-Pierre Luminet, L'univers en 40 questions. Et deuxième conseil?
Alors, souvent, on parle dans nos émissions sur l'espace de ces objets du ciel profond, de ces nébuleuses, de ces galaxies. Et nous, on a eu parlé dans nos émissions du marathon Messier, l'astronome français Charles Messier, qui avait classé 110 objets du ciel profond. Ben, je vous propose un livre qui s'appelle tout simplement Les objets de Messier, de Stéphane O'Meara, aux éditions Broquet. Donc, c'est un livre que vous pouvez trouver. Et dedans, vous avez les photos donc, de ces objets du ciel profond. Et vous avez toutes les informations pour les repérer dans le ciel, soit à l'œil nu, soit aux jumelles, soit au télescope.
Donc, on a des nébuleuses, des galaxies, des amas d'étoiles, etc. Et donc, Stéphane O'Meara, Les objets messiers, voilà, un bon conseil de lecture. Et puis, un événement...
Alors, bon, nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochaines émissions du Ciel et de l'Espace. Donc, l'ouverture à la Cité de l'Espace à Toulouse, donc l'exposition sur la Lune. Cette année, nous fêtons les 50 ans de l'homme sur la Lune. Donc, l'exposition est ouverte depuis le 20 avril. Donc, si vous passez par Toulouse, eh bien, et que vous avez un petit peu de temps, faites un petit crochet par la Cité de l'Espace et vous verrez cette très belle exposition. On a reconstitué donc cette exposition, une future base lunaire qui pourrait être mise en place dans les années 2020-2025. Hein. Donc voilà, on vous projette. Et puis bien sûr, avec du vécu, puisqu'il y a un astronaute américain qui s'appelle Charles Duke, que j'ai eu le plaisir de rencontrer aussi, qui a donc fait plein de choses pour cette exposition.
Très bien. Donc, Cité de l'Espace, c'est pas trop loin. Ça fait un petit week-end intéressant pour les enfants, etc. Et puis, pour terminer, vous rappelez que notre saison estivale commence dès ce mois d'avril et que toutes les informations relatives aux dates de soirée publique au BETS, c'est-à-dire à Saint-Julien-Chapteuil, sont accessibles sur notre site orion43.fr. Et là, vous avez les dates des soirées, les conférences qui sont ou qui vont être annoncées très très rapidement et toutes les informations pratiques pour venir nous voir, en particulier des vêtements chauds parce qu'on est à 1000 mètres d'altitude et que la nuit et les nuits sont parfois fraîches. Merci Jean-Michel.
Eh bien écoutez Gérard, et on se retrouve le mois prochain.
Et le mois prochain pour l'actualité du ciel et de la conquête spatiale. Au revoir.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.